L'éducation buissonnière, une émission qui traite de la transmission culturelle entre les générations, passées et présentes, autrement dit, d'éducation.
Bonjour. Dans les dernières émissions de l'éducation buissonnière, j'ai interviewé deux papas, puis deux mamans, concernant leurs idées éducatives. Et pour démarrer la discussion avec eux, je leur ai fait écouter quelques passages de l'émission de Françoise Dolto, qui se nomme « Lorsque l'enfant paraît », qui date, c'est vrai, des années 70, mais les sujets sont toujours à peu près les mêmes. Alors maintenant, cet hiver, j'ai rencontré au foyer rural des familles dont les enfants ne sont pas scolarisés et qui se regroupent régulièrement. Elles ont formé une association qui se nomme Lozère Buissonnière. Les enfants sont encore petits pour le moment et les mamans leur ont proposé des activités manuelles quand j'étais là et j'ai trouvé que le résultat était très réussi. J'ai eu donc un contact agréable avec les parents et avec les enfants. Les enfants étaient d'ailleurs tranquilles, je m'attendais à ce qu'ils courent partout et ce qu'il y ait beaucoup de bruit, et ce n'était pas du tout le cas. Et donc ça m'a donné envie d'en savoir plus sur le choix de vie de ces familles. Donc les parents et leurs enfants à la maison. Et d'autre part, ce qui m'a décidé à traiter le sujet, c'est que je suis tombée sur une revue qui s'appelle « Rêve de femme ». Je vous livre tout de suite lequel c'est, numéro 48, hiver 2017. Et dans cette revue, il y a un dossier sur la non-éducation, sur lequel donc je suis tombée un peu par hasard. Le nom de ce dossier, la non-éducation, m'a posé question. Est-ce que c'est possible la non-éducation ? En fait, ça m'a fait penser à Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, dont vous avez vu peut-être le film de Truffaut. Et puis, peut-être que plutôt qu'un retour à la vie sauvage, est-ce qu'on va revenir à l'enfant roi ? Bref, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai voulu en savoir plus. Et alors, je vous propose de traiter cela de deux façons différentes. D'abord, une émission théorique, entre guillemets, donc aujourd'hui, et qui sera composée en grande partie d'extraits du dossier dont je vous ai parlé, de cette revue Rêve de femme. Et puis, ensuite, j'ai fait des interviews de familles ayant choisi ce mode d'éducation, on pourrait dire ce mode de vie. Alors pour le moment, j'ai fait l'interview d'une maman, mais j'ai sous le coude aussi un papa que j'espère interroger bientôt. Donc sachant qu'il y a aussi de grandes différences entre les familles, des différences de pratiques, des différences d'inventivité, différences de façon de vivre, j'espère que cette variété ressortira des entretiens. Donc pour le moment, pour commencer, je vous lis les phrases qui introduisent le dossier de la non-éducation. Territoire sacré que l'innocence de l'énergie vitale de l'enfant, élan du cœur, élan de la vie qui fait l'expérience de la découverte du monde, du soi, de l'autre, avec si peu de filtres. Sauvegarder l'espèce humaine en accompagnant l'enfant dans son élan naturel de connaissance et de curiosité. Quel beau cadeau pour changer le monde par la confiance et la coopération. Alors, tout de suite, j'ai compris qu'au-delà du simple refus de l'école, il s'agit d'une philosophie de la vie. D'ailleurs, qui parle de rien de moins que de sauvegarder l'espèce humaine. Je développerai plus loin les mots suivants, en accompagnant l'enfant. Cela, ça me paraît vraiment un des fondements de cette pratique, accompagner l'enfant. Et en plus, cela nous introduit un peu plus dans le congrès. Dans le concret, pardon. Non, pas dans le congrès. Pas dans le congrès des familles non scolarisées. Non, dans le concret. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle voudrait d'un tel congrès. Alors, dès l'abord, j'ai quand même été rassurée parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une absence d'éducation. La non-éducation, ce n'est pas du tout l'absence d'éducation. D'abord, en fait, quand on parle d'éducation, on sous-entend enseignement. Enfin, moi, quand j'ai cherché dans Internet au départ, éducation, je suis tombée que sur des sites d'enseignement. La non-éducation concerne donc le refus de l'école, mais pas le refus de l'éducation en tant que telle. D'ailleurs, dans ce dossier, le titre du premier article se nomme « Arrêter l'école m'a ouvert beaucoup de portes ». Arrêter l'école m'a ouvert beaucoup de portes. Et c'est donc l'article d'une jeune fille qui a fini par abandonner le collège et qui a passé son bac toute seule, en candidat libre. Alors, l'éducation a un sens beaucoup plus large, évidemment. L'enseignement n'est pas l'éducation. Les parents éduquent, l'enseignant instruit. Enfin, dans la majorité des cas, car justement, il s'agit d'autre chose dans les émissions que je vous propose. Alors, revenons à la phrase d'introduction que je vous ai lue il y a quelques minutes. En accompagnant l'enfant dans son élan naturel de connaissance et de curiosité. Ce qui se traduit concrètement par, je cite, « L'adulte a pour mission de garantir les conditions d'apprentissage. L'enfant, comme la graine, n'a pas besoin de mode d'emploi pour pousser, à condition que l'adulte jardinier prépare le terrain. » Cette métaphore jardinière a souvent été utilisée à propos d'éducation enfantine. D'ailleurs, un petit rappel, jusqu'en 1973, date de la création du diplôme d'EJE, c'est-à-dire l'éducateur de jeunes enfants, les personnes s'occupant de jeunes enfants jardinaient, puisque leur profession se nommait jardinière d'enfants. Ce qui justifiait peut-être un manque de considération pour leur travail, et peut-être est-ce que ça pouvait aller de pair avec une faible rémunération. Mais bon, quittons ce terrain un peu glissant, et revenons à notre propos. Donc, il est spécifié plus loin, toujours dans l'article, l'alternative à l'éducation, c'est l'apprendre. Et l'auteur a une opinion radicale que je vous livre tout de suite. Ce qui met en place la relation dominateur-soumis depuis l'enfance et qui la cultive par la suite, c'est l'éducation. Toutes les éducations. En famille, à l'école, dans la rue, au travail, à la télé, dans la presse, entre amis, qu'on les appelle initiale, continue, perfectionnement, populaire, citoyenne, qu'elles se qualifient de positive, libératrice, émancipatrice, alternative, nouvelle, moderne, de l'an 3000, toujours quelqu'un y guide, oriente, facilite et aide. Ce simple mode de relation entre deux personnes, sous-jacent à toutes les éducations, est la matrice, à la fois le moule modèle et l'organe générateur, de la relation de dominance. Je continue, n'ayez pas peur. L'éducation elle-même et en soi est le problème. Elle ne peut en être sa solution. La solution ne réside donc pas dans une énième éducation alternative, mais dans une alternative à l'éducation. Et l'alternative à l'éducation, c'est l'apprendre. Dans l'apprendre, il n'y a plus qu'une seule personne, celle qui apprend. L'éducation est centrée sur l'éducateur, apprendre est centré sur l'apprenant. Celui-ci apprend de son entourage, lequel est composé de personnes qui ont une expérience de la vie et des savoirs. Et non, c'est bien différent, d'éducateurs qui éduquent. Apprendre est inhérent à la vie humaine, tout simplement parce que l'être humain est doté d'une mémoire et d'une volonté. Il retient tout ce qui lui convient, pour le moment venu le rechercher, comme il retient ce qui ne lui convient pas, pour l'éviter. Ce qui le guide dans la nature de ses mémorisations et dans la manifestation de ses volontés, c'est son instinct de survie, une sorte de force vitale sur laquelle son intellect n'a aucun pouvoir. Il intellectualise par la suite ses expériences ou non. Mais il a appris. Apprendre, c'est donc vivre. Et inversement, vivre, c'est apprendre. Sinon, je ne survis pas. Et à la fin de l'article, l'auteur spécifie, « Sans cette faculté d'apprendre, il n'y aurait pas d'éducation ni de dictature possible. C'est parce qu'il est privé de son apprendre naturel par l'éducation » que l'homme peut croire qu'il a besoin d'éducation pour apprendre. Oui. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que moi, je ne voyais pas du tout l'éducation sous cette forme. Mais cet article m'a beaucoup intéressée. Bon, je vous laisse méditer sur cette opinion. Mais c'est vrai que chaque enfant a son apprendre naturel. Mais la nature a besoin d'être, sinon guidée, du moins protégée. Alors, je cite encore une autre chose. Les appellations d'école à la maison ou de non-éducation sont incapables de rendre compte de la diversité, de l'inventivité de nos pratiques. Beaucoup me disent qu'ils n'éduquent pas leurs enfants, mais qu'ils se contentent de vivre avec, de coexister avec leurs enfants sans interventionnisme. Je leur réponds à la blague que c'est aussi le cas de leur chat ou de leur cactus sur le rebord de la fenêtre. Pourtant, quand il s'agit de soigner, d'inscrire l'enfant à la piscine, de financer un voyage ou d'accompagner l'enfant en vélo, le cactus me semble un peu démuni. C'est bien le parent qui assume la responsabilité de créer les conditions favorables. La liberté que nous laissons à nos enfants renvoie à une forme de responsabilité. Mais les enfants n'ont pas à assumer certaines responsabilités qui incombent aux parents. Et en ce sens-là, la liberté ne peut être totale. Mon rôle n'est certes pas la non-éducation, ni l'enseignement à la maison. Il est, comme le dit Ivan Illich, de créer ces micro-espaces dans lesquels il est possible de s'entendre sur la poursuite du bien. Voilà quelque chose qui est un petit peu plus concret. Et ça m'a beaucoup intéressé la comparaison avec le chat ou le cactus et le rôle des parents. Et de toute façon, il est quand même fondamental, le rôle des parents. Même si on ne veut pas pervertir l'enfant et que l'enfant est tout bon naturellement, mais... Bon, enfin, on peut en rediscuter et même revenir à Émile Rousseau, si ça vous dit. Alors, on va en venir au mode éducatif. Et à ce propos, un autre article d'une professeure des écoles traite des manières d'être avec l'enfant. Je suis professeure des écoles depuis 20 ans, au sein de l'éducation nationale. J'explore les chemins de l'apprentissage en développant des approches qui respectent l'humain. Passionnée par le fonctionnement du cerveau et notre façon d'apprendre, je suis aussi coach en apprentissage efficace et fondatrice de l'Académie des Dragons, dont je ne vous parlerai pas parce que je n'ai pas cherché ce que c'était. Pour moi, la non-éducation comme choix éducatif est loin d'être de la non-éducation. C'est faire au contraire le choix très éclairé et conscient d'un mode éducatif où l'enfant s'apparente à un maître. C'est dans l'interaction entre l'adulte et l'enfant que les deux s'enrichissent. Il ne s'agit pas de placer l'enfant sur un piédestal et de penser qu'il est tout puissant. Il s'agit de le considérer, dès son plus jeune âge, comme un égal. Et là, il n'est ni un être à qui on impose une volonté, ni un être doué de pouvoirs surnaturels. Il est juste un être humain à part entière qui a déjà toutes les réponses en lui. En tant qu'adulte, responsable de lui, nous pouvons amener l'enfant à en prendre conscience très tôt. Et cette professeure des écoles nous parle concrètement de la méthode qu'elle adopte avec ses enfants. Alors, le premier pas vers cette conscience de soi, c'est de ne pas prendre en charge les besoins de l'enfant. Dès que l'enfant est capable d'exprimer, l'amener à cette question toujours la même. De quoi as-tu besoin ? L'enfant qui ne parle pas peut aussi très tôt apprendre à signer, donc en langage des signes, pour exprimer un besoin. Le second pas est d'amener l'enfant à percevoir les conséquences de ses actions et ainsi à développer son empathie. De la même façon que l'enfant apprend qu'en fermant ses doigts sur un objet, il peut l'attraper et agir sur cet objet, il peut comprendre très tôt les conséquences de ses actes. Il s'agit de voir les actions de l'enfant comme des expériences. Quand j'accompagne mes élèves, je nomme le plus possible les actions, sans porter de jugement. Il n'y a pas de bien ou de mal. Ça, je pense que c'est assez fondamental de ne pas porter de jugement. Et alors, le troisième pas est en filigrane dans les exemples que je viens de citer. C'est parler vrai. Plus on parle d'égal à égal avec un enfant, plus il acquiert sa propre capacité à s'exprimer. Pour conclure, considérer un enfant comme un égal nous amène à être très vigilants par rapport à nos acquis, à ce qui nous a été transmis. Quand on découvre l'univers de l'enfance avec des yeux d'adulte qui voit un enfant comme un égal, un champ extraordinaire de possibles s'ouvre. Les enfants osent, ne sont pas limités dans leurs pensées. Ils nous emmènent avec eux dans leur vision si vaste du monde que nous, nous avions oublié. Car nous, adultes, avons été illimités un jour. Nous n'avons qu'à le redécouvrir en suivant les pas des petits maîtres que sont les enfants. Donc voilà une autre façon de voir les choses. Il faut quand même remarquer que les premiers articles étaient tous écrits par des hommes et que celui-ci est écrit par une femme enseignante. Bon, c'est tout, je dis ça comme ça, c'est tout. Et avant d'en venir donc à quelques questions plus spécifiques, je voudrais vous lire le ressenti d'une mère qui a fini par avoir ses 4 enfants à la maison à plein temps. Donc cette mère écrit « Je craignais de ne plus avoir de temps pour moi, mais j'ai senti qu'il y avait vraiment une qualité de vie à nous retrouver ensemble, sans les contraintes du rythme de l'école. J'ai vu aussi à quel point je me fais parfois rattraper sur mes peurs liées aux apprentissages et au manque de vie sociale. Accompagner ses enfants en unschooling demande lâcher prise, confiance et disponibilité. Pouvoir être une force de proposition plus attrayante que les écrans, par exemple. Pour moi, le cocktail n'est pas toujours réuni. J'ai aussi du mal à assumer ce choix, à le défendre devant les autorités lors de l'inspection annuelle. Bref, je n'ai pas fini de me déséduquer.
Ah ça, la guéguerre, les bastons! C'est bien des trucs de garçons! Ouais, on fiche le bazar et semer la zizanie! Les filles en connaissent un rayon, hein!
Alors pour rebondir sur l'inspection annuelle, je voudrais apporter quelques précisions administratives. D'abord, en France, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais c'est l'instruction de 6 à 16 ans. Notre Constitution garantit la liberté d'enseignement. Une décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977 le répète. Si son enfant ne va pas à l'école et qu'il a entre 6 et 16 ans, la famille doit obligatoirement faire une déclaration à la mairie. Cette déclaration est à renouveler tous les ans. Une enquête est diligentée, pour savoir les raisons de la non-scolarisation, l'état de santé de l'enfant, etc. Mais c'est une enquête qui ne porte pas sur la qualité de l'instruction. Cette enquête est renouvelée tous les 2 ans. Mais évidemment, d'autre part, il y a un contrôle pédagogique qui est effectué une fois par an, selon le décret du 28 octobre 2016. Enfin, nouveau décret, mais avant ça existait déjà, évidemment. Alors, ce qui est nommé l'IEF, c'est-à-dire l'instruction en famille, doit suivre le socle commun de connaissances. Ce contrôle pédagogique comporte un entretien avec les personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire. Ces dernières doivent préciser, je cite, la démarche et les méthodes pédagogiques mises en œuvre. Puis l'enfant effectue, je cite toujours, des exercices écrits ou oraux adaptés à son âge et son état de santé. Ceci sera développé dans l'entretien que j'ai eu avec Coralie, que vous entendrez dans la prochaine émission. Alors j'ai cherché à connaître la proportion d'enfants concernés par l'IEF, l'instruction en famille. Et sur Internet, j'ai trouvé 2 associations nationales. Une qui se nomme LEDA, LED'A, c'est-à-dire l'enfant d'abord, et une autre, LAIA, libre d'apprendre et d'instruire autrement. Alors la seconde association donne davantage de chiffres. Selon elle, 0,3% d'enfants de 6 à 16 ans ne vont pas à l'école. Et parmi eux, 60% sont inscrits au CNED, 30% CNED, Centre National d'Enseignement à Distance, 30% sont instruits en famille et 10% sont inscrits à des cours privés par correspondance. Cela concerne moins de 25 000 enfants sur un total de plus de 8 millions d'écoliers. En 2014-2015, environ 7 400 enfants ont été instruits en famille sans cours par correspondance. Et toujours en 2014-2015, 2,45% d'enseignements en famille ont été jugés insuffisants. Et donc à ce moment-là, les familles ont eu l'obligation de scolariser les enfants. Bon, un peu plus de 2% d'enseignements insuffisants, c'est vraiment presque rien. Mais quand même, il faut remarquer que 90% des familles ne sont pas satisfaites des contrôles. Alors, un dernier point à aborder, c'est, il me semble, la question très vaste de la liberté, celle de l'enfant, mais aussi celle des parents. Alors, voici comment une mère parle de son choix de vie. Donc, c'est toujours dans la revue Rêve de femme. C'est la dernière citation que je fais. Alors, elle écrit « Je trouve génial de construire sa journée en se demandant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et que la réponse vienne de l'intérieur ». Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il peut y avoir une confusion entre liberté et pleine licence. Je vois dans ma famille et d'autres une zone de flou avec qu'est-ce que la liberté ? Si là, mon enfant fait quelque chose qui dérange les autres, ce n'est plus ça. C'est l'apprentissage du respect à l'autre, de la relation. Pour moi, c'est une grosse vigilance à avoir. Et la fin de son article se termine comme ceci. Mais c'est vrai que souvent, on se retrouve à changer de métier, pas seulement pour des raisons logistiques, mais parce qu'on se rend compte qu'on ne veut plus consacrer son temps à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. Elle a drôlement de la chance, je trouve. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Maintenant, c'est un choix de simplifier ma vie, moins consommer, faire pousser mes légumes, passer du temps avec mes enfants. Ici, dans le pays de la consommation, le fait qu'on n'ait qu'une voiture paraît bizarre. On prend le bus, les vélos. C'est une liberté de ne pas avoir ce poids financier. C'est un choc culturel, car pour beaucoup, la liberté est dans le fait de pouvoir consommer. Bon, il faut dire que cette dame vit à Los Angeles, donc c'est vraiment une autre civilisation, parce que ce qu'elle dit de moins consommer, je crois qu'ici, on le fait tous les jours.
Mais enfin bon, c'est intéressant parce que elle relie aussi un peu la question économique à la question purement d'éducation. Alors oui, je pense que la question économique sera peut-être abordée dans les entretiens que je vais avoir après. Alors quant à la liberté accordée à l'enfant, je voudrais vous lire un texte. Alors un texte qui n'est pas jeune, qui date des années 60 et qui est l'introduction du livre « La liberté, pas l'anarchie » de A.S. Nel. Réflexion sur l'expérience de Summerhill. Summerhill, c'est lui qui avait créé cette école tout à fait libre en Angleterre. Alors il écrit, Nel, « Trop de parents américains qui ont lu Summerhill et qui se sentent coupables d'avoir entravé la croissance de leurs enfants par une discipline stricte informent ces derniers soudainement qu'ils sont désormais libres d'agir à leur guise. Le résultat, c'est que les enfants sont généralement gâtés car les parents ont une notion trop vague de ce qu'est la liberté. Ils ne comprennent pas que c'est un échange, c'est-à-dire que la liberté doit s'exercer dans les deux sens. » Celui des parents comme celui des enfants. Ainsi que je le comprends, la liberté ne veut pas dire qu'un enfant peut faire tout ce qu'il veut ou avoir tout ce qu'il désire. C'est bien là la grande difficulté. L'excès de liberté mène à l'anarchie. Je définis l'anarchie comme une interférence avec la liberté des autres. Par exemple, dans mon école, un élève est libre d'aller ou de ne pas aller en classe parce que cela ne regarde que lui. Mais il n'est pas libre de jouer de la trompette quand les autres veulent étudier ou dormir. Donc, avec deux générations d'écart, c'est exactement la même chose que dit cette maman de Los Angeles. Donc, en conclusion, je voudrais résumer quelques idées qui sous-tendent le choix de la non-scolarisation. Et comme disent les familles dont les enfants ne vont pas à l'école, elles sont des familles non-sco. Donc les familles non-sco, d'abord ne pas dépendre des méthodes scolaires, parce que le parent n'est pas l'enseignant de l'enfant, et donc en fait préserver l'intense curiosité de l'enfant et son amour de l'apprentissage. Une autre raison, c'est vivre ensemble en famille, et enfin former des libres penseurs autonomes et surtout heureux. Donc je répète, vivre c'est apprendre, apprendre c'est vivre. Donc, dans la prochaine émission, vous entendrez un entretien que j'ai eu avec Coralie, une maman non-sco. À bientôt.
L'éducation buissonnière. Une émission qui traite de la transmission culturelle entre les générations, passées et présentes. Autrement dit, d'éducation.